Je lis pour vous.
Lecture vagabonde de Hélène Vignon sur Radio Alliance Plus. Lire, un plaisir qui se partage.
Hélène Vignon pour Radio Alliance Plus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. En poursuivant la lecture du livre « Attente de Dieu », livre qui est composé par le regroupement de lettres qu'elle a adressées au père J.P. Perrin, lequel, en les regroupant, a composé ce livre, nous poursuivons un grand chapitre intitulé « L'amour de Dieu et le malheur ». Il regroupe des thèmes que nous avons lus précédemment, comme « L'amour du prochain », « Oh, amour de l'ordre du monde », »,« Amour des pratiques religieuses ». Et aujourd'hui, le titre, c'est « Amitié ». Recommençons notre lecture de « Attente de Dieu » de Simone Veil. Amitié. Mais il est un amour personnel et humain qui est pur et qui enferme un pressentiment et un reflet de l'amour divin. C'est l'amitié, à condition qu'on emploie ce mot rigoureusement au sens propre. La préférence à l'égard d'un être humain est nécessairement autre chose que la charité. La charité est indiscriminée. Si elle se pose plus particulièrement quelque part, le hasard du malheur qui suscite l'échange de la compassion et de la gratitude est la seule cause. Elle est disponible également pour tous les humains en tant que le malheur peut venir proposer à tous un tel échange. La préférence personnelle à l'égard d'un être humain déterminé peut être de deux natures. Ou l'on cherche en l'autre un certain bien, ou on a besoin de lui. D'une manière générale, tous les attachements possibles se répartissent entre ces deux espèces. On se porte vers quelque chose ou parce qu'on y cherche un bien ou parce qu'on ne peut pas s'en passer. Quelquefois, les deux mobiles coïncident, mais souvent non. Par eux-mêmes, ils sont distincts et tout à fait indépendants. On mange de la nourriture répugnante si on n'en a pas d'autre, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Un homme, modérément gourmand, recherche les bonnes choses, mais il s'en passe facilement. Si on manque d'air, on étouffe. On se débat pour en trouver, non parce qu'on en attend un bien, mais parce qu'on en a besoin. On va respirer le souffle de la mer sans être poussé par aucune nécessité, parce que cela plaît. Souvent, le cours du temps fait automatiquement succéder le second mobile au premier. C'est une des grandes douleurs humaines. Un homme fume l'opium pour avoir accès à un état spécial qu'il croit supérieur. Souvent, par la suite, l'opium le met dans un état pénible et qu'il sent dégradant, mais il ne peut plus s'en passer. Arnolf a acheté Agnès à sa mère adoptive parce qu'il lui a semblé que c'était pour lui un bien d'avoir chez lui une petite fille dont il ferait peu à peu une bonne épouse. Plus tard, elle ne lui cause plus qu'une douleur déchirante et avilissante. Mais avec le temps, son attachement pour elle est devenu un lien vital qui le force à prononcer le vers terrible. Mais je sens là-dedans qu'il faudra que je crève. Harpagon a commencé par regarder l'or comme un bien. Plus tard, ce n'est plus que l'objet d'une obsession harcelante, mais un objet dont la privation le ferait mourir. Comme dit Platon, il y a une grande différence entre l'essence du nécessaire et celle du bien. Il n'y a aucune contradiction entre chercher un bien auprès d'un être humain et lui vouloir du bien. Pour cette raison même, quand le mobile qui pousse vers un être humain est seulement la recherche d'un bien, les conditions de l'amitié ne sont pas réalisées. L'amitié est une harmonie surnaturelle, une union des contraires. Quand un être humain est à quelques degrés nécessaire, on ne peut pas vouloir son bien à moins de cesser de vouloir le sien propre. Là où il y a nécessité, il y a contrainte et domination. On est à la discrétion de ce dont on a besoin, à moins d'en être propriétaire. Le bien central pour tout homme est la libre disposition de soi. Ou l'on y renonce, ce qui est un crime d'idolâtrie, car on n'a pas le droit d'y renoncer qu'en faveur de Dieu, ou on désire que l'être dont on a besoin en soit privé. Toutes sortes de mécanismes peuvent nouer entre êtres humains des liens d'affection qui est la dureté de faire de la nécessité. L'amour maternel est souvent de cette nature. Parfois, l'amour paternel comme dans « Le Père Goriot » de Balzac. L'amour charnel sous sa forme la plus intense, comme dans « L'école des femmes » et dans « Phèdre ». L'amour conjugal, très fréquemment, surtout par l'effet de l'habitude, plus rarement l'amour filial ou fraternel. Il y a d'ailleurs des degrés dans la nécessité. Est nécessaire à quelques degrés tout ce dont la perte cause réellement une diminution d'énergie vitale, au sens précis, rigoureux, que ce mot pourrait avoir si l'étude des phénomènes vitaux était aussi avancée que celle de la chute des corps. Au degré extrême de la nécessité, la privation entraîne la mort. C'est le cas quand toute l'énergie vitale d'un être est liée à un autre par un attachement. Au degré moindre, la privation entraîne un amoindrissement plus ou moins considérable. C'est ainsi que la privation totale de nourriture entraîne la mort, au lieu que la privation partielle entraîne seulement un amoindrissement. Néanmoins, on regarde comme nécessaire toute la quantité de nourriture en deçà de laquelle un être humain est amoindri. La cause la plus fréquente de la nécessité dans des liens d'affection, c'est une certaine combinaison de sympathie et d'habitude. Comme dans le cas de l'avarice ou de l'intoxication, ce qui d'abord était recherche d'un bien est transformé en besoin par le simple cours du temps. Mais la différence avec l'avarice, l'intoxication et tous les vices, c'est que dans les liens d'affection, les deux mobiles, recherche d'un bien et besoin, peuvent très bien coexister. Ils peuvent aussi être séparés. Quand l'attachement d'un être humain à un autre est constitué par le besoin seul, c'est une chose atroce. Peu de choses au monde peuvent atteindre ce degré de laideur et d'horreur. Il y a toujours quelque chose d'horrible dans toutes les circonstances où un être humain cherche le bien et trouve seulement la nécessité. Les contes où un être aimé apparaît soudain avec une tête de mort en sont la meilleure image. L'âme humaine possède, il est vrai, tout un arsenal que de mensonges pour se protéger contre cette laideur et se fabriquer en imagination de faux biens là où il y a seulement nécessité. C'est par là même que la laideur est un mal, parce qu'elle contraint au mensonge. D'une manière tout à fait générale, il y a malheur toutes les fois que la nécessité, sous n'importe quelle forme, se fait sentir si durement que la dureté dépasse la capacité de mensonge de celui qui subit le choc. C'est pourquoi les êtres les plus purs sont les plus exposés au malheur. Pour celui qui est capable d'empêcher la réaction automatique de protection qui tend à augmenter dans l'âme la capacité de mensonge, le malheur n'est pas un mal, bien qu'il soit toujours une blessure et, en un sens, une dégradation. Quand un être humain est attaché à un autre par un lien d'affection en fermant à un degré quelconque la nécessité, il est impossible qu'il souhaite la conservation de l'autonomie, à la fois en lui-même et dans l'autre. Impossible, en vertu du mécanisme de la nature. mais possible par l'intervention miraculeuse du surnaturel. Ce miracle, c'est l'amitié. L'amitié est une égalité faite d'harmonie, disait les pythagoriciens. Il y a harmonie parce qu'il y a unité surnaturelle entre deux contraires qui sont la nécessité et la liberté. Ces deux contraires que Dieu a combinés en créant le monde et les hommes. Il y a égalité parce qu'on désire la conservation de la faculté de libre consentement en soi-même et chez l'autre. Quand quelqu'un désire se subordonner à un être humain ou accepte de se subordonner à lui, il n'y a pas trace d'amitié. Le Pylade de Racine n'est pas l'ami d'Oreste. Il n'y a pas d'amitié dans l'inégalité. Une certaine réciprocité est essentielle à l'amitié. Si d'un des deux côtés toute bienveillance est entièrement absente, l'autre doit supprimer l'affection en lui-même par respect pour le libre consentement auquel il ne doit pas désirer porter atteinte. Si d'un des deux côtés il n'y a pas respect pour l'autonomie de l'autre, celui-ci doit couper le lien par respect de soi-même. De même, celui qui accepte de s'asservir ne peut pas obtenir d'amitié. Mais la nécessité enfermée dans le lien d'affection peut n'exister que d'un côté, et en ce cas, il n'y a amitié que d'un côté si on prend le mot en un sens tout à fait précis et rigoureux. Une amitié est souillée dès que la nécessité l'emporte, fût-ce pour un instant, sur le désir de conserver chez l'un et chez l'autre la faculté de libre consentement. Dans toutes les choses humaines, la nécessité est le principe de l'impureté. Toute amitié est impure s'il s'y trouve, même à l'état de trace, le désir de plaire ou le désir inverse. Dans une amitié parfaite, ces deux désirs sont complètement absents. Les deux amis acceptent complètement d'être deux et non pas un. Ils respectent la distance que met entre eux le fait d'être deux créatures distinctes. C'est avec Dieu seul que l'homme a le droit de désirer être directement uni. L'amitié est le miracle par lequel un être humain accepte de regarder à distance et sans s'approcher l'être même qui lui est nécessaire comme une nourriture. C'est la force d'âme qu'Ève n'a pas eue. Et pourtant, elle n'avait pas besoin du fruit. Si elle avait eu faim au moment où elle regardait le fruit, et si malgré cela, elle était restée indéfiniment à le regarder sans faire un pas vers lui, elle aurait accompli un miracle analogue à celui de la parfaite amitié. Par cette vertu surnaturelle du respect de l'autonomie humaine, l'amitié est très semblable aux formes pures de la compassion et de la gratitude suscitées par le malheur. Dans les deux cas, les contraires qui sont les termes de l'harmonie sont la nécessité et la liberté, ou encore la subordination et l'égalité. Ces deux couples de contraires sont équivalents. Du fait que le désir de plaire et le désir inverse sont absents de l'amitié pure, il y a en elle, en même temps que l'affection, quelque chose comme une complète indifférence. Bien qu'elle soit un lien entre deux personnes, elle a quelque chose d'impersonnel. Elle n'entame pas l'impartialité. Elle n'empêche aucunement d'imiter la perfection du Père Céleste qui distribue partout la lumière du soleil et la pluie. Au contraire, l'amitié et cette imitation sont conditions mutuelles l'une de l'autre, du moins le plus souvent. Car comme tout être humain, ou peu s'en faut, est lié à d'autres par des liens d'affection enfermant quelques degrés de nécessité, il ne peut s'approcher de la perfection qu'en transformant cette affection en amitié. L'amitié a quelque chose d'universel. Elle consiste à aimer un être humain comme on voudrait pouvoir aimer en particulier chacun de ceux qui composent l'espèce humaine. Comme un géomètre regarde une figure particulière pour déduire les propriétés universelles du triangle, de même, celui qui sait aimer dirige sur un être humain particulier un amour universel. Le consentement à la conservation de l'autonomie en soi-même et chez autrui est par essence quelque chose d'universel. Dès qu'on désire cette conservation chez plus d'un seul être, on la désire chez tous les êtres, car on cesse de disposer l'ordre du monde en cercle autour d'un centre qui serait ici-bas. On transporte le centre au-dessus des cieux. L'amitié n'a pas cette vertu si les deux êtres qui s'aiment, par un usage illégitime de l'affection, croient ne faire qu'un. Mais aussi, il n'y a pas alors d'amitié au vrai sens du mot. C'est là, pour ainsi dire, une union adultère, quand même elle se produirait entre époux. Il n'y a amitié que là où la distance est conservée et respectée. Le simple fait d'avoir du plaisir à penser sur un point quelconque de la même manière que l'être aimé, ou en tout cas le fait de désirer une telle concordance d'opinion, est une atteinte à la pureté de l'amitié en même temps qu'à la probité intellectuelle. Cela est très fréquent, mais aussi une amitié pure et rare. Quand les liens d'affection et de nécessité entre êtres humains ne sont pas surnaturellement transformés en amitié, non seulement l'affection est impure et basse, mais aussi elle se mélange de haine et de répulsion. Cela apparaît très bien dans L'école des femmes et dans Phèdre. Le mécanisme est le même dans les affections autres que l'amour charnel. Il est facile à comprendre. Nous haïssons ce dont nous dépendons. Nous prenons en dégoût ce qui dépend de nous. Parfois, l'affection ne se mélange pas seulement. Elle se transforme entièrement en haine et en dégoût. Parfois même, la transformation est presque immédiate, de sorte que presque aucune affection n'a eu le temps d'apparaître. C'est le cas quand la nécessité est presque tout de suite mise à nu. Quand la nécessité qui lie des êtres humains n'est pas de nature affective, quand elle tient seulement aux circonstances, l'hostilité surgit souvent dès l'abord. Quand le Christ disait à ses disciples « Aimez-vous les uns les autres », ce n'était pas l'attachement qui leur prescrivait. Comme en fait il y avait entre eux des liens causés par les pensées communes, la vie en commun, l'habitude, il leur commandait de transformer ces liens en amitié pour ne pas les laisser tourner en attachement impur ou en haine. Le Christ ayant peu avant sa mort ajouté cette parole comme un commandement nouveau au commandement de l'amour du prochain et de l'amour de Dieu, on peut penser que l'amitié pure, comme la charité du prochain, enferme quelque chose comme un sacrement. Le Christ a peut-être voulu indiquer cela concernant l'amitié chrétienne quand il a dit « Quand deux ou trois d'entre vous seront réunis en mon nom, je serai parmi eux. » L'amitié pure est une image de l'amitié originelle et parfaite, qui est celle de la Trinité et qui est l'essence même de Dieu. Il est impossible que deux êtres humains soient un et cependant respectent scrupuleusement la distance qui les sépare. Si Dieu n'est pas présent en chacun d'eux, le point de rencontre des parallèles est à l'infini. amour implicite et amour explicite. Le catholique, même le plus étroit, n'oserait pas affirmer que la compassion, la gratitude, l'amour de la beauté du monde, l'amour des pratiques religieuses, l'amitié, soient le monopole des siècles et des pays où l'Église a été présente. Ces amours, dans leur pureté, sont rares, mais on affirmerait même difficilement qu'ils aient été plus fréquents dans ces siècles et ces pays que dans les autres. Croire qu'ils peuvent se produire là où le Christ est absent, c'est amoindrir le Christ jusqu'à l'outrager. C'est une impiété, presque un sacrilège. Ces amours sont surnaturels. Et, en un sens, ils sont absurdes, ils sont fous. Aussi longtemps que l'âme n'a pas eu contact direct avec la personne même de Dieu, ils ne peuvent s'appuyer sur aucune connaissance fondée, soit sur l'expérience, soit sur le raisonnement. Ils ne peuvent donc s'appuyer sur aucune certitude, à moins d'employer le mot dans un sens métaphorique pour désigner le contraire de l'hésitation. Par suite, il est préférable qu'il ne soit accompagné d'aucune croyance. Cela est intellectuellement plus honnête, et cela préserve mieux la pureté de l'amour. C'est à tous égards plus convenable. Concernant les choses divines, la croyance ne convient pas. La certitude seule convient. Tout ce qui est au-dessous de la certitude est indigne de Dieu. Pendant la période préparatoire, ces amours indirects constituent un mouvement ascendant de l'âme, un regard tourné avec quelque effort vers le haut. Après que Dieu est venu en personne, non seulement visiter l'âme, comme il fait d'abord pendant longtemps, mais s'emparer d'elle, en transporter le centre auprès de soi, il en est autrement. Le poussin a percé la coquille et il est hors de l'œuf du monde. Ses amours premiers subsistent, ils sont plus intenses qu'avant, mais ils sont autres. Celui qui a subi cette aventure aime plus qu'auparavant les malheureux, ceux qui l'aident dans le malheur, ses amis, les pratiques religieuses, la beauté du monde. Mais ses amours sont devenus un mouvement descendant comme celui même de Dieu, un rayon confondu dans la lumière de Dieu. Du moins, on peut le supposer. Ces amours indirects sont seulement l'attitude envers les êtres et les choses d'ici-bas de l'âme orientées vers le bien. Ils n'ont pas eux-mêmes pour objet un bien. Il n'y a pas de bien ici-bas. Ainsi, ce ne sont pas à proprement parler des amours, ce sont des attitudes aimantes. Dans la période préparatoire, l'âme aime à vide. Elle ne sait pas si quelque chose de réel répond à son amour. Elle peut croire qu'elle le sait, mais croire n'est pas savoir. Une telle croyance n'aide pas. L'âme sait seulement, d'une manière certaine, qu'elle a faim. L'important est qu'elle crie sa faim. Un enfant ne cesse pas de crier si on lui suggère que peut-être il n'y a pas de pain. Il crie quand même. Le danger n'est pas que l'âme doute s'il y a ou non du pain, mais qu'elle se persuade par un mensonge qu'elle n'a pas faim. Elle ne peut se persuader que par un mensonge, car la réalité de sa faim n'est pas une croyance, c'est une certitude. Nous savons tous qu'il n'y a pas de bien ici-bas, que tout ce qui apparaît ici-bas comme bien est fini, limité, s'épuise, et une fois épuisé, laisse apparaître à nu la nécessité. Tout être humain a vraisemblablement eu dans sa vie plusieurs instants où il s'est avoué clairement qu'il n'y a pas de bien ici-bas. Mais dès qu'on a vu cette vérité, on la recouvre de mensonges. Beaucoup même se complaisent à la proclamer, en cherchant dans la tristesse une jouissance morbide qui n'ont jamais pu supporter de la regarder en face plus d'une seconde. Les hommes sentent qu'il y a un danger mortel à regarder cette vérité en face pendant quelque temps. Cela est vrai. Cette connaissance est mortelle plus qu'une épée. Elle inflige une mort qui fait peur plus que la mort charnelle. Avec le temps, elle tue en nous tout ce que nous nommons « moi ». Pour la soutenir, il faut aimer la vérité plus que la vie. Ceux qui sont ainsi, selon l'expression de Platon, se détournent de ce qui passe avec toute l'âme. Ils ne se tournent pas vers Dieu. Comment le pourraient-ils dans les ténèbres totales? Dieu lui-même leur imprime l'orientation convenable. Il ne se montre pas à eux, cependant, avant longtemps. C'est à eux à rester immobiles, sans détourner le regard, sans cesser d'écouter et à attendre, ils ne savent pas quoi, sourds aux sollicitations et aux menaces, inébranlables aux chocs. Si Dieu, après une longue attente, laisse vaguement pressentir sa lumière ou même se révèle en personne, ce n'est que pour un instant. De nouveau, il faut rester immobile, attentif et attendre sans bouger, en appelant seulement quand le désir est trop fort. Il ne dépend pas d'une âme de croire à la réalité de Dieu si Dieu ne révèle pas cette réalité. Ou elle met le nom de Dieu comme étiquette sur autre chose, et c'est de l'idolâtrie, ou la croyance à Dieu reste abstraite et verbale. Il en est ainsi dans des pays et des époques où mettre le dogme religieux en doute ne vient même pas à l'esprit. L'état de non-croyance est alors ce que saint Jean de la Croix nommait une nuit. La croyance est verbale et ne pénètre pas l'âme. À une époque comme la nôtre, l'incrédulité peut être un équivalent de la nuit obscure de saint Jean de la Croix. Si l'incrédule aime Dieu, s'il est comme l'enfant qui ne sait pas qu'il y a quelque part du pain, mais qui crie qu'il a faim. Quand on mange du pain, et même quand on en a mangé, on sait que le pain est réel. On peut néanmoins mettre en doute la réalité du pain. Les philosophes mettent en doute la réalité du monde sensible, mais c'est un doute purement verbal, qui n'entame pas la certitude, qui la rend même plus manifeste pour un esprit bien orienté. De même, celui à qui Dieu a révélé sa réalité peut, sans inconvénient, mettre cette réalité en doute. C'est un doute purement verbal, un exercice utile à la santé de l'intelligence, ce qui est un crime de trahison, même avant une telle révélation. Bien plus encore après, c'est de mettre en doute que Dieu soit la seule chose qui mérite d'être aimée. C'est de détourner le regard, l'amour et le regard de l'âme. C'est de s'arrêter un instant, d'attendre et d'écouter. Électre ne cherche pas au reste, elle l'attend. Quand elle croit qu'il n'existe plus, que nulle part au monde il n'y a rien qui soit au reste, elle ne se rapproche pas pour cela de son entourage. Elle s'en écarte avec davantage de répulsion. Elle aime mieux l'absence d'Oreste que la présence de quoi que ce soit d'autre. Oreste devait la délivrer de son esclavage, des haillons, du travail servile, de la saleté, de la faim, des coups et d'humiliations innombrables. Elle n'espère plus cela. Mais elle ne songe pas un instant à user de l'autre procédé qui peut lui procurer une vie luxueuse et honorée, le procédé de la réconciliation avec les plus forts. Elle ne veut pas obtenir l'abondance et la considération si ce n'est pas au reste qui les lui procure. Elle n'accorde pas même une pensée à ces choses. Tout ce qu'elle désire, c'est de ne pas exister dès lors qu'Oreste n'existe pas. À ce moment, Oreste n'y tient plus. il ne peut s'empêcher de se nommer. Il donne la preuve certaine qu'il est au reste. Électre le voit, elle l'entend, elle le touche. Elle ne se demandera plus si son sauveur existe. Celui à qui est arrivée l'aventure d'Électre, celui qui a vu, entendu et touché avec l'âme elle-même, celui-là reconnaît en Dieu la réalité de ses amours indirects, qui étaient comme des reflets. Dieu est la pure beauté. C'est la chose incompréhensible, car la beauté est sensible par essence. Parler d'une beauté non sensible, cela paraît un abus de langage à quiconque a, dans l'esprit, quelque exigence de rigueur. Et avec raison. La beauté est toujours un miracle. Mais il y a miracle au second degré quand une âme reçoit une impression de beauté non sensible, s'il s'agit non d'une abstraction, mais d'une impression réelle et directe, comme celle que cause un chant au moment où il se fait entendre. Tout se passe comme si, par l'effet d'une faveur miraculeuse, il était devenu manifeste à la sensibilité elle-même que le silence n'est pas absence de son, mais une chose infiniment plus réelle que les sons, et le siège d'une harmonie plus parfaite que la plus belle dont les sons combinés soient susceptibles. Encore, y a-t-il des degrés dans le silence? Il y a un siècle dans la beauté de l'univers qu'il est comme un bruit par rapport au silence de Dieu. Dieu est aussi le véritable prochain. Le terme de personne ne s'applique avec propriété qu'à Dieu et aussi le terme d'impersonnel. Dieu est celui qui se penche sur nous. Nous, malheureux, réduits à n'être qu'un peu de chair inerte et saignante. Mais en même temps, il est en quelque sorte aussi ce malheureux qui nous apparaît seulement sous l'aspect d'un corps inanimé, d'où il semble que toute pensée soit absente. Ce malheureux dont nul ne connaît ni le rang, ni le nom. Le corps inanimé, c'est cet univers créé. L'amour que nous devons à Dieu et qui serait notre perfection suprême si nous pouvions l'atteindre est le modèle divin à la fois de la gratitude et de la compassion. Dieu est aussi l'ami par excellence. Pour qu'il y ait entre lui et nous, à travers la distance infinie, quelque chose comme une égalité, il a voulu mettre dans ses créatures un absolu, la liberté absolue, de consentir ou non à l'orientation qu'il nous imprime vers lui. Il a aussi étendu nos possibilités d'erreur et de mensonge jusqu'à nous laisser la faculté de dominer faussement en imagination non seulement l'univers et les hommes, mais aussi Dieu lui-même, tant que nous ne savons pas faire un juste usage de ce nom. Il nous a donné cette faculté d'illusion infinie pour que nous ayons le pouvoir d'y renoncer par amour. Enfin, le contact avec Dieu est le véritable sacrement. Mais on peut être presque sûr que ceux chez qui l'amour de Dieu a fait disparaître les amours purs d'ici-bas sont de faux amis de Dieu. Le prochain, les amis, les cérémonies religieuses, la beauté du monde ne tombent pas au rang des choses irréelles après le contact direct entre l'âme et Dieu. Au contraire, c'est alors seulement que ces choses deviennent réelles. Auparavant, c'était des demi-rêves. Auparavant, il n'y avait aucune réalité. Comme nous l'avons partagé aujourd'hui, notre lecture était tournée vers le thème de l'amitié d'abord et dans un deuxième temps, amour implicite et amour explicite. Notre prochaine lecture aura pour titre « À propos du Pater », la prière qui unit les chrétiens. La version qui sera utilisée étant assez particulière, je vais juste vous lire les titres et nous les détaillerons dans notre prochaine lecture. Voici ce que nous détaillerons. Notre Père, celui qui est dans les cieux, Sois sanctifié ton nom, vienne ton règne, soit accomplie ta volonté, pareillement au ciel et sur terre. Notre pain, celui qui est surnaturel, donne-le-nous aujourd'hui et remets-nous nos dettes, de même que nous aussi, nous avons remis nos dettes à nos débiteurs. Et ne nous jette pas dans l'épreuve, mais protège-nous du mal. Nous reprendrons ce texte, phrase par phrase, avec les commentaires de Simone Veil en début de notre prochaine lecture. Je vous rappelle que cette émission est en direct sur Radio Alliance Plus ou en podcast sur la radio, sur le site de la radio www.radioallianceplus.fr. N'oubliez pas d'écouter l'émission « Je lis pour vous ». À bientôt, chers auditeurs.